Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Alors les GG cette semaine, ce qui nous a interpellé, c'est l'annonce du staff de Zidane sur le banc des Bleus. Un nom a fait beaucoup parler, c'est celui du champion du monde 98, Fabien Barthez, pour occuper le rôle d'entraîneur des gardiens. Il avait été conseiller technique avec Laurent Blanc, sélectionneur entre 2010 et 2012, et avant il avait aussi travaillé avec Raymond Domenech quand il était le patron des Bleus. Les GG, en fait, je voudrais qu'on parle de ça, parce que peut-être beaucoup ont dit « Ah, Fabien Barthez, ça fait un petit moment qu'il n'est plus forcément peut-être dans le coaching ». Avec les jeunes gardiens de but, et c'est vrai que sa légitimité, elle est aussi sur sa carrière. Surtout, je voudrais qu'on parle de la parole des anciens champions. Est-ce qu'elle est forcément une plus-value? Tiens, on va commencer. Bah tiens, Teddy, moi je voulais que tu sois avec nous dans la dernière heure, justement pour ça, parce que toi, Teddy, dans ta carrière, t'as été entraîné par un coach champion olympique, hein, Ivan Pedroso à Sydney, qui avait quand même une sacrée carrière. Et aujourd'hui, comme champion, toi, du monde, t'as entraîné aussi des entraîneurs actuels. À quel point la parole d'un ancien champion pour toi dans ta construction, elle peut avoir une valeur plus importante que quelqu'un qui n'a pas été champion, par exemple?
Alors moi, j'ai un avis assez nuancé par rapport à la situation, c'est-à-dire que dans un premier temps, je suis allé voir Ivan Pedroso parce que j'avais besoin justement de son expérience de champion. Ouais. J'étais fan de l'école cubaine, donc forcément, en fait, cela m'a conduit vers lui, étant donné qu'il vivait en Espagne en 2010. Donc j'avais besoin vraiment de son expérience, j'avais besoin de son, comment dirais-je, en tant qu'athlète, c'était une référence
pour toi.
Très mesurée, très analytique, pourtant c'était le saut en longueur, c'était pas le triple saut, mais j'aimais le personnage, en fait, ce qu'il dégageait, et son école, en fait. Donc au final, cela m'a conduit à lui demander de m'entraîner. Et je trouve que ça a assez bien marché. Maintenant, je nuance mon propos parce que, en fait, ce n'est pas parce que vous êtes un excellent athlète que vous allez devenir un excellent entraîneur. Maintenant, il est vrai que quand on a réussi sportivement, il y a une certaine légitimité, en fait. Il y a une certaine légitimité de la part des entraîneurs. Vous avez toujours, à un moment donné, que vous le vouliez ou non, à un moment donné, l'athlète, il va dire, mais toi, t'as fait quoi? Ça veut dire que quand je galère, quand j'ai des soucis, tu vas peut-être me remonter les bretelles, mais est-ce que toi t'as vécu ce moment? Je me souviens Tony Yoka qui le disait, qui est un ami à moi, il disait très bien, oui, moi personnellement, il faut que je sois avec un entraîneur qui un minimum fait la boxe. C'est-à-dire qu'ils connaissent un minimum la pression, le fait de recevoir des coups, le défilement, en fait, des rounds et tout ce qui va avec, en fait. Et ça avait du sens. Donc oui, quand on est sportif, lorsqu'on a été sportif de haut niveau, je pense que cela apporte un plus. Cependant, ce n'est pas parce que vous avez été sportif de haut niveau que vous allez faire un bon entraîneur. Parce que derrière, il y a une transmission.
Et toi, quand tu arrives et que tu deviens entraîneur, tu te dis pas parce que j'ai gagné, en gros, je suis arrivé. Tu te remets en cause aussi. Tu te mets au diapason pour amener des techniques aussi à ceux que tu vas entraîner. Jérôme Pinot dans le vélo, il y en a beaucoup, hein, des champions. On en parle beaucoup de la transmission de l'histoire aussi. C'est quand même très cyclisme. Quelle est la valeur de la parole des anciens champions pour toi? T'es d'accord avec ce que dit Teddy?
Je reprends tout ce que dit Teddy et je répète la même chose. C'est pour moi indispensable d'avoir un passé de cycliste. J'ai pas été entraîneur, mais j'ai été manager. J'ai été entraîné par des grands. J'ai été entraîné par des anciens champions. J'ai aussi été parfois accompagné par des gens qui n'avaient pas fait de la très haute compétition. Et comme le dit Teddy, c'est dans les moments souvent très difficiles où tu le regardes et tu dis, mais tu sais ce que c'est, toi? T'as souffert comme moi. Tu sais ce que c'est que d'être dans le dur. Tu sais ce que c'est que de faire 3 semaines de vélo, tu sais ce que c'est que de te lever le matin et d'aller prendre une tôle parce que t'es sûr que t'es pas prêt. Non, donc évidemment que ces gens-là ont un coup d'avance, les Bernardo, les Bramati, les Didier Rousse. Moi, c'est des garçons qui m'ont donné des conseils et que j'écoutais parce que je sais que eux, ils avaient un palmarès et qu'ils étaient.
C'est quoi, quand t'es en difficulté, c'est plus vers ce genre de profil que tu te retournais?
Évidemment, je pense que quand tu...
Ce qui n'enlève rien à la légitimité des autres, hein, mais c'est naturel pour le sportif.
Évidemment, et comme le dit Teddy, je le rejoins aussi, c'est que c'est pas non plus parce que tu as été un grand que tu es un bon entraîneur. Pourquoi? Parce que l'élément essentiel dans tout ça, c'est expérience-transmission. Et s'il n'y a pas l'un ou l'autre, ça ne marche pas. T'as beau avoir été un très grand. Moi, je prends l'exemple très clair de Thomas Vauclair aujourd'hui à la tête de la sélection nationale. Thomas, pourquoi ça marche? Parce qu'évidemment, il a de très bons athlètes. Des très bons athlètes qui l'écoutent parce qu'ils sont un Julien Alaphilippe. Écoutez Thomas, parce que Thomas Vauclair, il a un palmarès. Mais parce que c'est Thomas aussi, c'est transmettre son histoire.
Ah bah surtout pour cette génération en plus. Il a arrêté juste avant. Ils ont grandi avec Vauclair.
Et ça, c'est très important. C'est pas le même discours avec cette génération-là que la génération passée qui parlait au Jalabert, etc. Mais Laurent Jalabert était un immense champion, mais la transmission, ça marchait pas.
Mais voilà, parce
qu'il y a aussi, je ne sais pas si tu me rejoins, Teddy et Marion, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'anciens athlètes de très haut niveau qui ont été des grands champions, qui ne parlent que d'eux et qui ne comparent les autres qu'à eux. Et à partir du moment où c'est ça, tu ne peux pas transmettre et ça ne marche pas.
Marion, tiens, sur le sujet.
Alors, je pense qu'il y a des éléments différents. Là où je rejoins totalement Teddy, c'est qu'effectivement, je trouve que dans la difficulté d'avoir dans son entourage, ou en tout cas, même si c'est pas un entraîneur au quotidien, d'aller poser des questions ou d'aller passer 2 heures ou 3 heures à discuter avec quelqu'un qui a connu les mêmes choses que toi, je trouve ça extrêmement enrichissant.
Donc là, par exemple, Barthez, c'est enrichissant pour Mike Maignan, peu importe peut-être même la qualité des entraînements par rapport à ce qu'il y avait avant en équipe de France. Il a déjà une richesse
exactement,
à donner à Maignan.
Voilà, exactement. Et puis Fabien a été dans les cages sur une finale de Coupe du Monde. Comment on prépare ça? Comment mentalement on se prépare? Comment on rentre sur le terrain? Voilà, tout ce partage d'expérience, c'est absolument extrêmement enrichissant et on apprend énormément. En revanche, effectivement, nous dans le tennis, les trois plus grands champions qu'on a eu, c'est-à-dire Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, ont été entraînés par des entraîneurs qui les ont formés, qui n'ont pas été eux-mêmes des immenses champions. Donc, je trouve qu'il y a une différence, je pense, réelle à faire entre eux. Un entraîneur qui va être au quotidien avec vous, qui va faire le volume d'heures, qui va vous amener à un certain niveau, et puis de manière sporadique à des moments précis de votre carrière, des additions dans votre entourage parce que vous en avez besoin. Alors je pense à Roger qui a fait appel à un moment donné à Stefan Edberg, je pense à Rafael Nadal qui a fait appel à Carlos Moya, je pense à Novak Djokovic qui a fait appel à Goran Ivanišević, auparavant à Boris Becker, parce qu'à un certain moment de sa carrière, il avait besoin justement d'échanger avec d'autres personnes qui avaient vécu des finales de Grand Chelem, qui avaient vécu des matchs à très haute intensité, qui avaient vécu parfois des défaites cruelles et comment on s'en remet. Et je trouve que ça vient à des moments différents.
Oui, mais il y en a qui ne savent pas le faire aussi, des anciens joueurs, des anciens champions, qui ne savent pas être dans cette transmission, même si tu as connu.
Exactement, mais je trouve que dans le tennis quand même, lorsqu'on entend par exemple aujourd'hui André Agassi qui va faire des choses avec l'USTA qui est donc l'équivalent de la Fédération Française de Tennis mais aux États-Unis, je trouve que les fédérations ou même les jeunes aujourd'hui vont quand même chercher l'expérience des anciens champions parce qu'ils peuvent vous apporter énormément. Là où j'aimerais quand même évoquer pour moi une différence qui est importante, c'est qu'il y a une différence entre être entraîneur au quotidien qui demande un volume et un investissement qui est très important et souvent les anciens champions n'arrivent pas à le faire parce que vous avez plus envie de partir de chez vous, de partir de votre famille. Je parle en tennis simplement.
T'as envie d'être un consultant,
voilà. Je connais pas assez les autres sports pour juger en termes de volume horaire et d'investissement. Mais par exemple, sur un entraîneur de tennis, vous devez faire 35 semaines en dehors de chez vous.
Ouais.
Bon, quand vous avez déjà fait ça pendant toutes vos carrières, c'est très, très compliqué de laisser votre famille, de se dire, je vais repartir 35 semaines sur le circuit. Certains le font, mais ça reste quand même de manière, très ponctuel et c'est peu d'entraîneurs qui le font. En revanche, aller chercher un Andy Murray, même pour Novak Djokovic, qui a été avec lui pendant 6 mois, des anciens champions, aller même discuter avec eux, aller les voir pendant une semaine
en stage. Toi, tu t'en es nourri, j'imagine, d'échanges.
Moi, par exemple, avec Amélie Mauresmo, typiquement, quand elle était capitaine de Fed Cup en 2013, je passais des heures à discuter avec elle et je lui ai posé 1 milliard de questions. Mais ça doit venir pour moi... d'une démarche, en tout cas sur un sport individuel. Là, c'est bien sûr Zinedine Zidane qui arrive avec son staff. Mais sur un sport individuel, ça vient de l'athlète qui fait cette démarche. Et là où je rejoins Teddy, c'est que vous allez chercher une personne pour ce qu'elle va vous apporter. Et donc, il y a forcément une écoute qui va être très importante. Si on vous l'impose et que vous n'avez pas forcément envie de ça, oui, effectivement, vous allez peut-être le prendre du mauvais côté en disant « Ouais, mais parle que de lui, elle parle que d'elle. C'est bon, elle me passe tout le temps parce qu'elle a gagné, que moi, j'ai pas gagné, machin. » Alors que si vous êtes dans cette démarche-là d'aller écouter, alors, je cite toujours cet exemple, et effectivement, les gens se moquent de moi, mais bon, j'ai eu la chance de rencontrer Usain Bolt en 2013 parce que c'est un fan de tennis et il m'a invité chez lui pour le voir s'entraîner. Ouais. Il était en période d'entraînement avec Johan Blake. Vous apprenez énormément, même si c'est des sports différents, et vous sortez de là.
Exactement.
Voilà.
Comme Wemby,
et vous sortez
cette
de là
semaine,
en se disant, mais c'est, ouais, comme Wemby, c'est extraordinaire.
Comme Wemby,
quoi.
Si cette semaine est allé faire du rugby avec Philippe Saint-André, notre GG.
Voilà, exactement. Et vous apprenez énormément d'autres sportifs.
Comme Florent Manodou, on en a parlé hier, qui est allé faire du handball et qui avait c'est été prendre des choses d'autres sportifs, d'autres champions. La parole d'ancien champion est-elle forcément une plus-value? C'est le sujet du vestiaire. Teddy, je t'entendais valider ce que disait Marion là sur la difficulté peut-être quand tu as été sportif de haut niveau derrière comme entraîneur d'être là au quotidien tout le temps. Il y a aussi le fait que il faut que tu assumes que l'athlète que tu vas coacher, c'est pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, comment tu arrives à changer le logiciel? On sait que par exemple, pour Thierry Henry, ça a été difficile quand il arrive à Monaco, parce qu'en fait, il coachait presque les joueurs comme s'ils étaient tous des Thierry Henry. Ben, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas tous Thierry Henry. Donc, toi, comment tu arrives à coacher tes athlètes en sachant qu'ils ne sont pas des Teddy Tamgo? Ça, le plus dur à déconstruire.
Bah déjà dans un premier temps, lorsque j'ai commencé à entraîner, je n'ai pas été directement à haut niveau. J'ai commencé avec justement des jeunes, parce que je me suis dit qu'il fallait que je refasse mes classes du début.
Comme le fait Marion, Marion en ce moment. On en parlera tout à l'heure. Mais
oui, moi voilà, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut revenir en fait à de l'humilité, c'est-à-dire de se dire que ok c'est bon, j'ai réussi, c'est cool, mais ça ne veut pas dire que je peux préparer un champion du monde, un vainqueur de Roland Garros, etc.
Mais tous ne sont pas dans cette démarche, je t'ai dit. Quand même, faut être conscient.
Oui, après chacun fait ce qu'il veut.
Oui. Non, mais il y en a qui arrivent qui doivent se dire, je vais entraîner Bolt. Et alors?
Oui, bah c'est le gros problème. C'est vrai que j'ai pu le constater, n'est-ce pas, de la part de certains entraîneurs, n'est-ce pas, en athlétisme, c'est que après leur carrière, ils pensaient directement en fait qu'il leur fallait leur donner les meilleurs postes, ce qui n'était pas forcément le cas. Moi, j'ai préféré justement, je ne suis pas allé à l'INSEP, j'ai préféré repartir du début, partir m'exiler à Boulouris, entraîner et surtout me faire aider par Laurence Billy, qui était aussi une de mes entraîneurs pendant ma carrière. Laurence Billy qui a couru en 11 secondes 04 au 100 mètres, qui est une des plus grandes de l'histoire française. Donc j'ai accepté en fait aussi de me faire mentoré en fait dans mon approche, parce que je me suis dit qu'à un moment donné, tu as beau être champion de ce que tu veux, à un moment donné il faut revenir à de l'humilité.
Mais pourquoi? Parce que tu avais vu justement d'autres et tu te disais, j'ai pas envie d'être ça quand je serai entraîneur, justement avant, tu vois, d'autres qui se croyaient arriver, quoi. Tu t'es dit, moi je veux passer par là.
Je ne sais pas si consciemment, en tout cas, j'ai eu cette pensée. Néanmoins, j'ai toujours été dans un système où quand j'apprends quelque chose de nouveau, quand j'apprends une nouvelle compétence, en fait, j'ai toujours besoin en fait d'avoir un mentor en fait à côté de moi, une personne qui va m'apprendre en fait le rouage. Exactement. Ce n'est pas parce que c'est de l'athlétisme, ce n'est pas parce que j'ai travaillé directement dans le triple saut que cela veut dire que je serai un bon entraîneur. Donc j'ai besoin d'une personne justement qui a cette expérience, qui a ce vécu pour justement m'accompagner et me donner en fait la base. Et les premiers enseignements, en fait, tout simplement. Mmh. Et à partir de là, je crée justement ma logique.
Ta méthode, ma cohérence, en fait. Ouais, ta méthode voilà. En fait, ton Teddy Tamgo, entraîneur qui n'existait pas avant, parce que tu étais l'athlète.
Exactement.
Et t'as réussi à changer ça. Jérôme, tu voulais réagir?
Ouais, non, mais parce que là, pour parler de Fabien Barthez, je pense qu'on est assez tous d'accord. Et d'ailleurs, il y a le débat, il n'y a pas ses diplômes, c'est un scandale, etc. Il va pas mettre les plots et construire les séances, Fabien Barthez. Il va accompagner les trois sélectionnés par Zinedine Zidane dans l'accompagnement de la préparation à des grands événements, dans le... Exactement. C'est pas leur quotidien, il est en sélection. Par contre, qui de mieux qu'un garçon qui a gardé les buts pour une finale de championnat d'Europe et une finale de Coupe du Monde pour préparer mentalement, pour aller donner des conseils, des placements, des petits tips qui vont faire que Mike Maignan sera encore meilleur. Il n'y a pas besoin d'un entraîneur, Mike Maignan, il en a un dans son club. Donc s'ils font appel à Fabien Barthez, c'est pour la transmission. Et d'abord la transmission, c'est comme quand Zizou va être sur le terrain, il a ses adjoints, c'est pas lui qui met les plots et qui crée les séances. C'est du coaching plus que de l'entraîneur, ce que va faire Fabien Barthez. Et c'est là où, dans ce rôle-là, ben, je suis désolé, il n'y a pas mieux qu'une personne qui a fait du très haut niveau. Il n'y a pas mieux que quand tu regardes le mec dans les yeux, encore plus Teddy, quand tu vas chercher le champion et que tu dis, moi je veux travailler avec vous monsieur, ben, évidemment quand il va te parler, tu vas l'écouter. On te l'impose pas, c'est toi qui vas le chercher. Et ce gars-là, ben, c'est rarement le pimpin du coin qui entraîne les cadets, quoi. C'est souvent quelqu'un qui a un palmarès et avec qui t'es un peu badé quand t'étais jeune, évidemment.
Marion, quand c'est vrai qu'on le sait pas forcément, parce que tu le répètes pas non plus à droite à gauche, mais t'entraînes des jeunes joueuses actuellement. Dans ta démarche pour aller entraîner, Teddy là a parlé un petit peu de ce qu'il avait motivé, comment il avait construit ce rôle-là. Toi, comment tu l'as construit?
En fait, ce qui est très intéressant, c'est que j'entraîne trois joueuses, deux qui sont au niveau professionnel, qui vont jouer les qualifications de l'US Open, et une qui est vraiment une junior et qui est en formation. Et en fait, j'essaye à la fois de me remémorer mes années où effectivement j'étais à ces classements-là, ou mes années où j'étais junior. Et donc quand vous êtes junior, vous avez encore plus de doutes parce que vous êtes même pas encore sur le circuit professionnel. Donc vous vous dites, c'est ce que j'ai envie de faire, mais est-ce que je vais y arriver? Parce qu'il y a quand même pas beaucoup d'élus pour beaucoup qui essayent. Donc il y a toute cette partie-là où il faut beaucoup rassurer les jeunes, beaucoup rassurer les parents, passer énormément de temps avec eux. Et puis ensuite des professionnels, mais qui sont à des classements où elles sont pas encore dans les tableaux finaux, mettons à du Grand Chelem, où elles peuvent vraiment gagner leur vie. Et donc il y a beaucoup de pression financière et une pression qui est différente à assumer. Et en fait, moi, je pars du principe que mon rôle, au-delà effectivement d'avoir un certain rôle technique, mais je passe pas assez de temps et pas assez de semaines avec elles pour avoir un réel impact technique, c'est en fait de leur transmettre une réelle confiance en elles qu'elles ont du mal à avoir. Et je trouve que les champions, quand vous discutez avec eux, et en tout cas pour avoir échangé effectivement avec des champions d'autres sports que le mien, moi, ce qui me frappe énormément, c'est qu'ils ont une confiance absolument infaillible en leur capacité et qui ensuite ils mettent tout en place pour bien évidemment performer. Et je trouve que pour être avec ces joueuses-là au quotidien, quand j'échange avec elles, ce qui me frappe le plus, c'est que c'est le manque de confiance qu'elles ont en elles avant d'aborder un match. Et donc mon rôle, au-delà de les aider à le préparer le mieux possible, tournoi du Grand Chelem qui va arriver, c'est de leur dire que c'est possible et qu'elles ont le niveau, et donc d'avoir quasiment plus confiance en elles qu'elles-mêmes ont confiance en leur propre capacité. Mmh. Et ça, c'est
et tu te sers de ton parcours, rôle... j'imagine aussi, pour leur donner
confiance.
Voilà,
c'est un rôle qui est très c'est un rôle qui est très très important, et donc j'apprends aussi de mes erreurs. J'étais avec elles sur Roland Garros, quand je me refais les semaines qu'on a fait ou les jours qu'on a fait avant ce tournoi, je me dis bah tiens, peut-être que là j'aurais pu faire une séance qui les aurait peut-être mis un peu plus en confiance, peut-être que sur ce match-là à un moment donné j'ai donné un tips qui peut-être je l'ai dit d'une façon qui a créé chez elle un état de stress et j'aurais pu un petit peu mieux faire. Et en fait, vous apprenez vous aussi en se disant bah, moi j'avais une manière de recevoir l'information qui était d'une certaine façon, et la personne que j'ai entraînée ne reçoit pas l'information de la même façon que moi, et donc vous devez vous adapter en permanence. Mais c'est extrêmement enrichissant sur le plan personnel, et c'est comme ça que vous devenez meilleur dans le métier que vous faites. Mais là où je rejoins totalement Jérôme, c'est que c'est effectivement pas vous 365 jours de l'année qui allez faire toutes les séances, parce que c'est, en tout cas, c'est pas le rôle que je désire avoir. Mais j'espère, et pour l'instant sur les résultats, effectivement c'est plutôt encourageant, que dans mon rôle qui est précis, je leur apporte quelque chose qu'elles auraient peut-être eu plus de mal à trouver chez un autre entraîneur. Mmh. Et ça, c'est pour moi une très grande fierté, parce que quand je les vois s'épanouir sur le terrain, être heureuses, gagner, avoir plus confiance en elles, mettre en place des choses qu'on a mis à l'entraînement, les voir faire ça en match, pour moi c'est extrêmement enrichissant. Et pour ça, on n'a pas besoin d'entraîner Roger ou Novak uniquement des vainqueurs de Grand Chelem pour être heureux en tant qu'entraîneur. Mmh. Et je trouve que ça, c'est très très important.
Fascinant de vous écouter, franchement, les amis, là, pour savoir un peu comment on doit faire reset en fait sur le logiciel du sportif de haut niveau pour devenir entraîneur, mais en même temps garder quelques outils pour pouvoir accompagner les jeunes sportifs ou des équipes en ayant été des anciens champions. Enfin, vous êtes des champions pour toujours, les amis, vous le savez. Je referme la porte du vestiaire. On retrouve évidemment cette discussion en podcast.